Une école pour la vie. L'émission de Radio Grand Ciel qui vous parle de l'actualité de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loire, animée et réalisée par
Anne-Sophie Choubeau,
Corinne Vivier,
Claire Tiercelin
et Jean Bourriou, votre serviteur. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, nous nous rendrons tout d'abord à Sainte-Marie, à la rencontre d'élèves qui s'engagent pour l'environnement, puis nous parlerons de Parcoursup avec M. Tranin, chef d'établissement de l'institution Notre-Dame à Chartres, et nous finirons avec la rubrique « C'était hier » de Claire.
Nous sommes au collège Sainte-Marie en compagnie de 5 élèves de 6e, 5e et avec leur enseignante, Madame Aline Lesseau. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors Madame Lesseau, dans votre établissement, depuis déjà plusieurs années, vous avez un engagement au développement durable qui est très important. On en parle souvent dans nos émissions, nos auditeurs commencent à bien le savoir. Donc est-ce que, pour aujourd'hui, pouvez-vous nous résumer un petit peu toutes les actions et tous les projets qui vous motivent sur l'établissement ? Ou en tout cas, le slogan qui pourrait vous motiver et le projet global ?
Alors depuis effectivement plusieurs années, nous sommes engagés dans le développement durable et reconnus à la fois par le conseil départemental à travers les gouttes d'eau, nous avons la goutte d'or et nous sommes ambassadeurs depuis plusieurs années, et par l'UNESCO depuis plus d'une dizaine d'années. L'UNESCO nous a proposé l'an dernier un projet international que vivent 25 pays avec une dizaine d'établissements par pays qui s'appelle Approche institutionnelle globale et que nous avons choisi d'appeler en France Aujourd'hui pour demain. Ce projet vise à lutter contre le réchauffement climatique et à l'adaptation à tous les changements climatiques. Ce projet aussi travaille, comme c'est un projet de l'UNESCO, travaille avec une approche globale. Nous réfléchissons à travers tous les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable, qui ont été émis par l'ONU en septembre 2015. Ces objectifs de développement durable sont très vastes et ne recouvrent bien sûr pas que l'environnement. Pour vous donner un exemple, le premier c'est éradiction de la pauvreté et la lutte contre la faim pour le deuxième. Nous travaillons beaucoup ici sur l'accès à une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes. Nous travaillons aussi donc lutte contre le changement climatique à travers une consommation plus responsable, qui est l'objectif 12, bien sûr, avec des partenariats, et tout ça dans un esprit de construire la paix dans le monde. Donc on invite tous nos élèves dans les classes, à travers ces ODD, à changer le monde, à travers différents clubs, différentes activités. Et ceux qui sont ici ont beaucoup de choses à dire.
Alors, et si tu changeais le monde ? C'est la question que l'on va poser à Camille, Apolline, Maxence, Néo et Sika, qui vont vous expliquer et vous raconter leur engagement de cette année.
Bonjour, je m'appelle Apolline. Donc moi je voudrais vous parler des éco-délégués. Donc en fait j'en fais partie depuis cette année. Et notre projet c'est de créer une maquette où on créerait une ville durable. Donc d'abord on a réfléchi à qu'est-ce qu'une ville durable. On s'est aidé à des ODD. Et donc on a réfléchi, on a construit la maquette, on a imaginé des lampadaires, des panneaux solaires, des ruches, plein de choses qui pourraient faire partie du développement durable. Et donc on a présenté notre projet ensuite, donc d'abord à tout le collège, pendant la semaine du développement durable. durable. Et ensuite, pendant au concours, c'est génial. On rencontre les jeunes chercheurs.
Alors, à cette rencontre des jeunes chercheurs, tu as assisté à une conférence, je crois, qui t'a beaucoup marqué. Est-ce que tu peux nous parler de cette conférence ?
Alors, oui. Donc, c'était une femme qui nous présentait justement les femmes et la science, les oubliées du prix Nobel. Donc, elle nous a expliqué que, en nous donnant des chiffres, les femmes étaient beaucoup moins représentées que les hommes. Dans tous les domaines des prix Nobel. Et elle nous a montré quelques femmes qui avaient été oubliées par les prix Nobel. Donc en fait, par exemple, souvent elles étaient dans l'ombre de leur mari ou de leur patron. Et c'était leur mari ou leur patron qui recevait les prix Nobel un peu à leur place. Donc après, on a réfléchi tous ensemble. Est-ce que c'était comme ça dans notre collège ? Et en fait, on s'est dit que non. Au collège, par exemple, on a le club scientifique, on a plein d'activités où il y a souvent autant de filles que de garçons, voire plus.
D'ailleurs, autour de cette table, il y a 3 filles pour 2 garçons. On passe la parole.
Bonjour, moi c'est Maxence, je suis en 6e. Je fais partie du club scientifique et de la commission solidarité. Cette année, on a travaillé avec Concertation Action pour un projet à Haïti parce que les habitants sont à 30 minutes de marche pour aller puiser de l'eau. Donc on a fait une vente de bonbons dans le spectacle de solidarité.
Donc en fait, vous avez fait un spectacle de solidarité et une vente de bonbons, c'est ça ? Il y avait, tu m'as parlé tout à l'heure d'une lutte contre la déforestation, c'est ça aussi ? C'était ça aussi dans le projet ? Merci. Alors, on va donner la parole à Sika. Tu avais aussi envie de nous parler d'une expérience que vous avez fait il n'y a pas très longtemps, de la disco soupe. Ah, à partir de légumes moches. Et je crois que tu avais un invité. Il y avait un invité d'honneur pour ou il y a une personne qui est venue vous sensibiliser. Comment s'appelle-t-elle cette personne et qui est-elle ? Et il fait quoi dans la vie ?
Il se forme à être cuisinier. Pour être cuisinier, il a écrit un livre dans lequel il raconte qu'il a fait le tour du monde pour regarder les différentes alimentations dans le pays.
Merci, Sika. Alors, notre dernier invité, je te laisse te présenter.
Bonjour, moi c'est Néo. Je suis en 5e. Et ça fait 2 ans que je fais le club scientifique. L'année dernière, on travaillait sur le nettoyage de la mare de façon durable en utilisant une pompe à énergie solaire. On a vu qu'on pouvait pas l'utiliser parce que à cause des élèves. La bâche de la mare s'est trouée parce que au début on l'a nettoyée manuellement et du coup on n'a pas pu l'utiliser.
Alors à quoi elle vous sert cette mare dans le collège? Alors ça vous permet, est-ce que cette mare vous permet de faire des études en cours? Parce que comme tu me disais que vous aviez voulu nettoyer cette mare, voilà, avec toutes les difficultés que vous avez pu avoir pour la nettoyer, tu m'as dit tout à l'heure que vous aviez ramassé des êtres vivants.
Oui.
Voilà. Et donc qu'est-ce que vous avez étudié grâce à cette observation de tous ces êtres vivants de la mare?
On a étudié quel est l'état de la mare, donc si elle était polluée ou non par rapport aux espèces qui y vivaient. Et on a vu que la mare était un peu polluée.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
Vous
avez pris du coup des actions pour dépolluer cette mare?
Oui. Il y en a encore qui essayent d'enlever les plantes dans la mare. Parce qu'il y en avait trop. Et
vous allez continuer votre travail.
Oui.
Alors, tu veux nous parler aussi d'une fête qui va avoir lieu ou qui a eu lieu?
Qui a eu lieu. C'est tous les ans. Ça s'appelle la fête de la science. Donc, on présente ce qu'on fait, un peu.
Ça se passe où?
À l'IUT. Cette année, à l'IUT de Chartres. Et donc d'autres aussi présentent leurs projets avec des expériences qui durent toute la journée.
Merci. Est-ce que, avant de conclure, vous pourriez nous dire pourquoi c'est important aujourd'hui que vous vous engagez et quel message vous avez envie de donner aux auditeurs qui ne seraient pas encore très convaincus sur l'importance de faire attention à la façon dont on vit, dont on consomme, la façon dont on mange. Est-ce que... Qui veut prendre la parole? Sika.
C'est important de se préoccuper dès aujourd'hui de l'avenir, de ce que mangeons nos descendants et de leur laisser une planète en bon état.
Apolline?
C'est important parce que ça touche pas que la planète et surtout les hommes, donc si on fait pas ça pour la planète, on pourra pour nous.
Eh bien, merci beaucoup d'abord de votre accueil. Merci beaucoup pour toute cette sensibilisation que vous faites auprès de tous les jeunes et les adultes qui sont sur votre établissement. Merci aussi pour nous autres auditeurs qui sommes touchés par votre engagement et qui allons essayer de mieux vous comprendre et de suivre vos traces. Merci beaucoup.
Donc pour ma part, en tant que Madame Le Sceau, référente de tous ces projets, coordonnatrice, je tiens aussi à remercier tous les collègues qui s'engagent et qui permettent aussi à ces élèves de pouvoir à leur tour faire vivre les projets. En particulier Madame Jeannot, qui était comme moi facilitatrice sur le projet Aujourd'hui pour Demain. Madame Zerghini, qui accompagne la classe de 6e 7. Madame Vivier, qui participe avec les élèves en espagnol et qui fait un échange avec le Mexique sur ces thématiques de développement durable. Et puis aussi les personnes de la cantine qui sont très investis et qui nous permettent de mener jusqu'au bout nos projets. Toutes les personnes de la vie scolaire qui permettent aussi d'avoir une approche globale et qui nous aident à vivre les projets. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous ces projets sur la page Facebook du Collège Sainte-Marie. Collège Sainte-Marie, agir pour demain.
Thank you.
Enregistrons cette émission, le plus gros des épreuves du bac est passé. Pour de nombreux élèves de terminale qui poursuivent leurs études, va commencer une nouvelle vie. L'an passé, c'était APB qui devait gérer le post-bac, remplacé cette année par Parcoursup. Pour nous en parler, Anne-Sophie, nous recevons aujourd'hui M. Tranin, chef d'établissement de l'institution Notre-Dame à Chartres.
Oui, tout à fait. M. Tranin, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'avoir accepté notre invitation à Radio Grand Ciel. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis, justement, par rapport à la nouvelle plateforme Parcoursup comparer un petit peu et nous donner les changements par rapport à l'ancien système qui s'appelait APB.
Alors, écoutez, c'est difficile aujourd'hui de faire un bilan global parce que la procédure est en cours. Donc, on n'a pas fait la totalité de Parcoursup encore pour véritablement dresser un bilan aujourd'hui. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Cela étant dit, ce que nous observons aujourd'hui au niveau national, c'est ce qui est dit, c'est qu'il y a 80% pour l'instant des élèves de terminale qui ont une orientation. Alors, on peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si on le regarde à moitié vide, il y en a 20% qui, pour l'instant, n'ont rien. Mais nous n'en sommes pas encore à la procédure complémentaire qui commence à partir de demain. Pour le moment, avec beaucoup de prudence, on pourrait dire que ça ne marche pas si mal que ça.
Donc c'est vraiment par étapes. Donc on peut rappeler à nos auditeurs que le 15 janvier, donc c'était l'ouverture de la plateforme Parcoursup avec les lancements de tutoriels. Le 22 janvier, l'ouverture des inscriptions pour les lycéens de terminale. Et les lycéens de terminale pouvaient donc présenter 10 vœux avec 20 sous-vœux. Et c'était la grande nouveauté cette année, c'est surtout qu'il n'y a pas d'hiérarchisation.
C'est ça, oui, tout à fait. Écoutez, là-dessus, nous, on constate quand même une certaine fluidité du système. Au tout début, nous avions une certaine appréhension, mais je pense comme un certain nombre d'établissements. Sur les premiers jours des résultats de Parcoursup, il y avait une certaine fébrilité. Mais en fait, il semblerait que ce soit un système qui fonctionne un peu par palier. Pendant un certain moment, ça stagne, puis à un moment donné, ça se débloque.
Exactement.
Il y a des places qui se libèrent soudainement un peu partout. Du coup, il y a un phénomène de décompression. Puis de nouveau, ça se stabilise. Puis de nouveau, un phénomène de décompression. Ce qui a pu générer au début certaines inquiétudes.
Alors, pour rappel à nos auditeurs, donc le 31 mars, c'était la confirmation définitive des vœux. Et du 22 mai au 25 juin, donc les élèves, les lycéens ont eu des réponses justement par paliers successifs. Donc soit oui, soit en attente, soit refus.
Oui, tout à fait. Voilà, bah écoutez, vraiment, on est prudent encore aujourd'hui, mais ce que je peux dire en tous les cas, c'est qu'il est clair que de la part du rectorat et du ministère, il y a eu un énorme effort pédagogique. Vous me direz, c'est ce qu'on pourrait attendre quand même de l'éducation nationale, mais il n'en demeure pas moins que c'est net par rapport à avant. Il y a vraiment des efforts d'explication auprès des familles sur les différentes étapes, sur les manières de faire, et ça, il me semble indiscutablement que c'est quand même une avancée de ce point de vue-là.
Justement, notamment au niveau de l'accompagnement, donc vous, au lycée Notre-Dame, vous aviez mis en place des réunions d'information pour les familles, parents et élèves, et puis aussi, il y a eu tout un accompagnement pédagogique au niveau... Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce tutorat qui a été mis en place?
Oui, alors effectivement, il y a eu des réunions d'information, mais ça, c'était pas très original. On en faisait déjà avant. C'est surtout le fait que maintenant, il y a un deuxième professeur principal par classe de terminale, ce qui allège le travail forcément de celui qui a en charge principalement la classe. Ainsi, cette deuxième personne venait en renfort pour accompagner les élèves. Alors, Peut-être que ça ne marchait pas tout à fait de la même manière selon les classes, mais il n'en demeure pas moins que c'était un vrai renfort pour faire plus de cas par cas, effectivement, dans le suivi d'orientation des élèves de terminale.
Oui, il y a eu un vrai encadrement. Est-ce que vous pouvez nous donner justement le bilan un petit peu sur Notre-Dame par rapport à vos élèves ? Vous parliez, il y a encore 20% à peu près
d'élèves. 20%, je crois, au niveau national.
Là, hein, oui.
Au niveau académique, c'est sûr, 20%. Nous, on est en deçà de ça. Hein. Très clairement, on est plus autour de 10% d'élèves qui tâtonnent encore un tout petit peu aujourd'hui. Mais sans grande inquiétude quand même de notre côté. Hein, on a bon espoir que ça se débloque. De toute façon, c'est l'objectif de Parcoursup.
Et alors justement, comment peut-on aider un élève qui est sans réponse positive ?
Ben sur sa phase complémentaire, là, à partir de demain, c'est effectivement à lui aussi de prendre contact avec l'établissement, avec son professeur principal, pour éventuellement faire de nouveaux vœux sur des endroits où il y a encore des places effectivement libres. Donc là, c'est vraiment une démarche d'abord de la part de la famille qui revient vers l'établissement pour un travail de concertation et un petit peu chirurgical pour répondre au mieux à ces petits points de difficulté.
Oui, puis il ne faut pas désespérer. Hein. On nous a dit à peu près jusqu'au 14 juillet, les données peuvent encore évoluer, changer.
Et en réalité, même jusqu'à fin août, début septembre, il y aura encore effectivement des places qui seront proposées sur certains établissements.
Donc là, je crois que le rappel, c'est de dire aux élèves, aux lycéens qui doivent se connecter tous les matins, justement pour vérifier
si
le classement
absolument.
A changé.
Et il est vrai qu'au moment où on va avoir les résultats du baccalauréat, je ne parle pas forcément d'institution Notre-Dame, mais au niveau académique par exemple, eh bien, certains élèves dans certains établissements n'auront pas leur bac. Or, ils s'étaient inscrits sur Parcoursup. Forcément, ça libérera déjà aussi des places.
Oui.
Et donc là, il y aura de nouveau la moulinette qui va se mettre en marche pour proposer d'autres places.
Oui, donc une réactualisation des données.
Oui, exactement.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Trenin, pour cette information qui est quand même assez essentielle sur Parcoursup. Merci.
Je vous en prie. Merci.
Pour cette dernière rubrique « C'était hier », Claire Tiercelin nous propose un petit historique de l'enseignement catholique.
Oui, Corinne, et nous allons remonter assez loin. Est-ce que c'est Charlemagne qui a inventé l'école ? Peut-être pas. On estime qu'il en existait déjà 3000 ans avant Jésus-Christ, mais on lui doit sûrement sa réinvention. Pendant les 44 années de son règne, il va favoriser la création d'écoles régies par les abbés, où l'on apprend à lire, à écrire et à compter, et où on donne bien sûr un enseignement religieux. À l'intérieur même de son palais, Charlemagne crée l'école palatiale d'Aix-la-Chapelle, où sont admis des garçons, aussi bien de la noblesse que de conditions modestes. Pendant tout le Moyen-Âge et pendant toute la chrétienté, l'éducation est confiée aux prêtres et aux moines qui sont instruits. À partir du XIIe siècle, les écoles épiscopales des cathédrales vont peu à peu prendre le dessus sur les abbayes situées trop loin des villes. Jusqu'à la Renaissance, l'école ne concerne qu'une très faible population, essentiellement issue de la noblesse et de la grande bourgeoisie. Les jésuites occuperont un rôle particulier dans l'éducation en formant l'élite de la nation. S'ils sont expulsés de France en 1762, c'est toujours à l'Église que l'État délègue la formation des enfants sous l'Ancien Régime. C'est au député Louis-Joseph Charlier qu'on doit pour la première fois en 1793 l'idée d'un enseignement primaire obligatoire, laïque et gratuit. Les premiers lycées sont ouverts sous le consulat en 1802. Le principe du monopole de l'État sur l'éducation est également entériné. Et en 1808, le baccalauréat est créé. Le XIXe siècle voit s'affronter laïcs et religieux. Mais en 1833, on vote la loi Guizot, instaurant la possibilité d'existence de l'enseignement primaire privé. Et le 15 mars 1850, après 2 mois de vifs débats, les députés de la Seconde République votent la loi Falloux, qui permet aux congrégations catholiques d'ouvrir en toute liberté un établissement secondaire avec les enseignants de leur choix. Les lois de Jules Ferry suppriment l'instruction religieuse à l'école, mais une journée dans la semaine est laissée pour permettre aux familles d'envoyer leurs enfants au catéchisme. En 1951, la loi Marie permet de faire bénéficier de bourses d'État les élèves de l'enseignement privé. Enfin, en 1959, la loi Debré instaure un système de contrat entre l'État et les écoles privées qui le souhaitent. L'État accorde une aide, mais en contrepartie, les programmes doivent être les mêmes que dans l'enseignement public. L'inspection devient obligatoire, et les enfants ne partageant pas la même religion que l'établissement ne peuvent être refusés. Les enseignants sont rémunérés par l'État selon les mêmes grilles indiciaires que dans l'enseignement public. Et plus récemment, en 1984, les écoles privées ont failli disparaître. Projet de réforme d'Alain Savary, regrouper enseignement privé et public. À la suite de manifestations de masse, le projet est retiré. L'éducation des filles n'a pas été prioritaire tout au long des siècles. Des congrégations religieuses ont pu pallier ce manque à diverses époques. Chez nous, en Eure-et-Loire, qui s'est préoccupé de l'éducation et de l'instruction? Voici plusieurs congrégations qui ont participé à cette œuvre d'enseignement. Les Frères des écoles chrétiennes, institués par Jean-Baptiste de La Salle, se consacreront à partir de 1680 à l'éducation des enfants d'artisans et de pauvres. À Chartres, ils dirigeront l'école Saint-Benoît, rue du Pont du Massacre, aujourd'hui Secours catholique, l'école Saint-Ferdinand, rue Chanzy, et à Dreux, l'Institut Saint-Pierre-Saint-Paul. En 1700, le père Chauvet et Marianne de Tilly ouvrent dans une cave une école pour les filles pauvres de Beauce à Levéville-Lachenard. C'est le début de la création de la Congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres, et depuis cette période, les Sœurs de Saint-Paul ont développé de nombreuses écoles dans le diocèse. Vers 1800, les Sœurs de Picpus s'intéressent aussi à l'éducation des jeunes filles. En Eure-et-Loire, elles dirigeront le collège Jeanne d'Arc à Chartres pendant de nombreuses années. La Congrégation du Cœur Immaculé de Marie s'occupera à Chartres des jeunes filles de l'Institut Guéry, dont le collège s'appellera plus tard Sainte-Marie. Les Sœurs de la Providence de Ruillet ouvriront l'Institut Sainte-Cécile à Châteaudun et les Sœurs dominicaines de Tours, école et collège à Janville. Quant au clergé séculier du diocèse, sous la responsabilité de l'évêque, il dirigera à Chartres la maîtrise et l'institution Notre-Dame, connue aujourd'hui sous le nom de Collège et Lycée Notre-Dame et Enseignement supérieur, et à Nogent-le-Rotrou, le petit séminaire et l'Institut d'Elfeuille. Bonnes vacances et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles émissions.
Voilà, une école pour la vie, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette année scolaire. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et on sera heureux de vous retrouver au mois de septembre.